Radio Okapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, déchu par l'Assemblée nationale à la suite d'une motion de défiance votée contre lui, il lui a reproché la flambée des prix sur le marché. C'est une première depuis l'avènement de la Troisième République en RDC. Accalmie apparente sur toutes les lignes dans la région des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 à Djomba au nord Kivu. Conséquences humanitaires, plusieurs villages sont vidés de ses habitants fuyant les hostilités. Enfin, le ministre des Hydrocarbures décide de fermer tous les dépôts pétroliers pirates à Kinshasa, une décision qui rentre dans le cadre d'assainissement des routines, nous dit Tony Kermani, son conseiller technique. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Déchéance hier mercredi du ministre de l'économie par l'Assemblée nationale. C'est en tout cas pour la première fois depuis l'entrée de la Troisième République qu'un ministre soit déchu par le Parlement. Sur les 368 votants, 277 députés ont voté pour la motion de défiance, 79 députés ont voté contre et 12 députés se sont abstenus. Il est reproché au ministre Jean-Marie Kalumba, la distribution des billets verts en public, la hausse des prix sur le marché, mais aussi l'exportation des millions de dollars vers la Namibie pour l'achat de poissons chinchards au lieu d'organiser la pêche au niveau national, Michel Kifinangoy.
Avant l'ouverture du débat, le ministre de l'économie a saisi le président de l'Assemblée nationale et la Cour de cassation pour dénoncer un faux en écriture contenu dans la motion de défiance contre lui. Pour tenter de bloquer l'examen de cette motion, le député Maïcha a par motion préjudicielle sur pied de l'article 78 du règlement intérieur de la Chambre sollicité un sursis de l'examen en entendant le prononcé de la Cour de cassation. Déterminé à en découdre avec le ministre Jean-Marie Kalumba, l'Assemblée plénière a rejeté la motion préjudicielle et a procédé séance tenante à l'examen de la motion de défiance. Dans sa présentation de la motion, le député Crispin Bindoulé exige la déchéance du ministre, reproché de distribuer de l'argent en public, la hausse des prix sur le marché et l'exportation des millions de dollars des contribuables vers la Namibie pour l'achat des chinchards au lieu d'organiser la pêche locale. Prenant la parole, le ministre Jean-Marie Kalumba justifie la hausse de prix sur le marché, notamment par la crise en Ukraine. Et c'est sur cette note que le président de l'Assemblée nationale a soumis au vote sans débat la déchéance ou pas du ministre Jean-Marie Kalumba. De Palais du Peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Puisque nous parlons des hausses des prix sur le marché, rendons-nous à certains marchés de Kinshasa où il est constaté une flambée des prix des biens de première nécessité. C'est le cas des denrées alimentaires. Un bidon d'huile de palme de 25 litres qui coûtait 45 000 revient actuellement à 52 000 francs congolais. Un sac de braise qui se vendait à 23 000 il y a quelques temps s'achète présentement à 32 000. Celui de cossette de manioc est passé de 70 à 120 000 francs congolais. Une rame de chinchard 20 plus, communément appelée Piodi, est passé de 51 000 à 58 300 au marché Gambela. Les prix augmentent alors que le taux du dollar reste inchangé, précise Badioko.
Certains vendeurs du marché de Gambela affirment que le gouvernement n'assure pas le contrôle sur la vente de produits par les grossistes.
En tout cas,
nous ne parvenons pas à nous en sortir, d'autant plus que le prix augmente au quotidien. Prenons l'exemple du bidon d'huile qui se vendait à 92 000 francs congolais. Il y a à peine une semaine, se vend aujourd'hui à 107 000 francs congolais. Il y a donc une augmentation de 15 000 francs congolais. Comment avoir les bénéfices? C'est difficile. On achetait avant 10 bidons, mais aujourd'hui, on ne peut qu'acheter 8 bidons à cause de cette augmentation des prix. Nous sommes en train de souffrir parce que l'État congolais ne contrôle pas les particuliers qui nous vendent les marchandises.
D'autres, par contre, disent que c'est la multitude de taxes qui est à la base de la surchauffe de prix observée ces jours-ci.
Les personnes qui font payer la patente passent, d'autres passent pour faire payer les tickets, la taxe de l'État aussi. Ça augmente chaque jour.
Face à cette hausse continuelle, les ménagères disent éprouver des difficultés pour la survie vie de leur famille.
Nous ne savons plus quoi faire. La radio diffuse des nouvelles nuit et jour, mais on ne trouve pas toujours de solution. Mais nous sommes en train de souffrir, nous sommes vraiment en train de pleurer. Et il y a de quoi.
Tous appellent le gouvernement à trouver rapidement de solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien.
Autre nouvelle, l'opération de contrôle de marquage des produits pétroliers se poursuit à Kinshasa. L'Hydro Task Force, mise en place par le ministre des Hydrocarbures, a effectué une ronde mardi dernier dans quelques sociétés de la place. Cette phase répressive intervient après une longue période de sensibilisation, Jean-François Mouillard.
Cette opération de contrôle a pour but de s'assurer à ce que les différents produits pétroliers mis à la consommation puissent être en ordre avec la fiscalité pétrolière telle qu'exigée par la loi. Des sanctions sont prévues pour tous ceux qui seront surpris en situation d'irrégularité. C'est ce qu'affirme Tony Tchermani, conseiller technique en charge de l'aval pétrolier du ministre des Hydrocarbures.
Authentix est chargé de marquer le produit pétrolier. Ça veut dire lorsque le produit doit aller sur le point de consommation, ça doit être un produit marqué. C'est ça l'option qui a été levée. Le produit marqué, c'est le produit qui a payé toutes les taxes à l'État congolais. Et nous avons l'obligation, nous comme brigade, d'aller sur le point de consommation pour vérifier si le produit mis à la consommation est bel et bien marqué. C'est ça notre rôle, c'est ce que nous faisons. Donc nous sommes venus là, on est chez Orange, l'opérateur procède au prélèvement des échantillons et les laboratoires mobiles est sur place. On les fait séance tenante au lieu du prélèvement et nous avons le résultat là qui nous indique la nature du produit. Si c'est un produit marqué, nous on n'a pas de problème, on constate, on félicite l'opérateur. Et si le produit n'est pas marqué, il est fail, alors là, il y a un barème de sanctions en application actuellement.
Rappelons que l'Hydro Task Force a notamment la mission de mettre en application le barème des sanctions en ce qui concerne les produits pétroliers non marqués.
Reportage signé Jean-Francis Mouya. Alors, comment aider la RDC à concrétiser son souhait de fabriquer les batteries pour les voitures électriques? Des experts ont adressé des recommandations au gouvernement congolais à ce sujet. Cynthia Bachizi a rencontré un de ces experts en marge du colloque sur la vision minière des pays de la SADC, un événement organisé par Southern Africa Resource Watch à Johannesburg du 30 au 31 mars. Reportage.
Il est tout à fait légitime que la RDC ambitionne de devenir leader dans la fabrication des batteries électriques. Elle est première productrice de cobalt au monde et abrite plus de 50% de réserves de ce métal, qualifié de stratégique par le code minier de 2018. Bien que la plupart des gisements de cobalt soient entre les mains des investisseurs étrangers, des alternatives existent. Dr Claude Kabemba, directeur de l'organisation SAROA.
Toutes ces que nous avons aujourd'hui comme cobalt sont déjà vendues aux entreprises privées étrangères. Et les entreprises privées qui sont propriétaires des mines qui exploitent le cobalt ne sont pas prêts à entrer dans cette entreprise de fabrication des batteries. Mais il y a des alternatives. Il y a l'artisanat minier. C'est un aspect important dans l'appropriation de nos ressources. Donc il y a 20% de la production de cobalt qui est produite par les artisanaux congolais. Mais au-delà de ça, le gouvernement, et c'est une proposition que les experts font, doit investir dans la géologie. Nous devons trouver nos propres réserves de cobalt que nous amènerons dans la fabrication des batteries.
Les experts sont unanimes. Seuls les pays qui vont arriver à développer une industrie minière compétitive et donner ainsi de la valeur ajoutée à leurs minerais pourront réellement tirer profit de leur exploitation minière. De Johannesburg, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, une accalmie s'observe sur toutes les lignes de front dans les combats qui opposent les FRDC aux rebelles du M23 dans le groupement de Djomba en territoire de Rutshuru. Les sources de la société civile de Rutshuru affirment qu'après des violents combats le mardi dernier près de la cité de Bunagana, les rebelles du M23 se seraient retirés de la zone vers une direction jusque-là inconnue. Pendant ces temps, le groupement de Djomba et plusieurs autres localités environnantes en territoire de Rutshuru sont quasiment vidés de leurs habitants. Bernard Nyangui, les déplacés ont fui, les uns vers le territoire ougandais, les autres dans des cités plus sécurisées en territoire de Rutshuru.
Le groupement de Djomba serait à présent vidé à 80% de ses habitants, estime un député provincial élu du territoire de Rutshuru. Emmanuel Ngarouye précise que les localités comme Gikoro, Mukingo, Bunagana et Rubona sont vidées totalement, alors que celles de Nyagasozi et Kibanda le sont partiellement. Les attaques depuis la nuit de dimanche à lundi des rebelles du M23 dans la zone ont aussi touché le groupement voisin de Busanza dans la localité de Mungo. C'est aussi partiellement vidé. Des sources administratives locales à Bunagana estiment à 5000 le nombre de ménages et de déplacés ayant fui vers Kisoro en Ouganda, alors que des milliers d'autres ont trouvé refuge vers Rutshuru Centre, Kiwanja, Kisigari et d'autres villages de Busanza. Ces déplacés ainsi que les familles qui les ont accueillis, vivant pour la plupart de l'agriculture, sont en situation de vulnérabilité, indiquent les organisations locales et de défense des droits humains. Conséquence, la coordination locale de la société civile redoute ce qu'elle qualifie de désastre humanitaire dans la zone et plaide pour l'intervention urgente du gouvernement congolais. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, sachez que les corps de 8 casques bleus de la MONUSCO qui étaient à bord d'un hélicoptère en mission de reconnaissance qui s'est écrasé mardi dans la région de Tchanzu sont à la morgue de l'hôpital de la MONUSCO à Goma. Il s'agit de 6 ressortissants pakistanais, un russe et un serbe. À New York, le secrétariat général des Nations Unies a adressé un message de condoléances à leurs familles et a annoncé l'ouverture des enquêtes pour déterminer les circonstances de ce drame. Autre nouvelle, le nouveau coordonnateur humanitaire en RDC s'est dit déterminé à entretenir un meilleur partenariat avec les ONG nationales. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, coordonnateur résident pour les actions de développement du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC, s'est ainsi exprimé à l'issue d'une visite effectuée à la Caritas Congo. C'était le mardi 29 mars à Kinshasa. Il répondait ainsi à la question relative à la contribution particulière attendue des ONG nationales dans le cadre du plan humanitaire 2022. Celui-ci cible 8,8 millions de personnes sur un total de 27 millions qui auront besoin d'une assistance humanitaire cette année en République démocratique du Congo. Pele Kipelamondo, le coordonnateur, fait des révélations.
Bruno Lemarquis révèle qu'une nouvelle architecture de coordination humanitaire a été mise en place depuis un mois. Celle-ci commence avec les coordinations opérationnelles provinciales, où les ONG nationales sont mieux représentées qu'elles ne l'étaient avant.
J'espère vraiment qu'on puisse avoir la meilleure représentation possible des ONG nationales, représentées par leur coalition, et je crois comprendre qu'il y en a plusieurs, pour qu'elles participent aux discussions stratégiques avec le reste des acteurs, Nations Unies, bailleurs de fonds humanitaires, ONG internationales.
Avec la Caritas Congo Asbel, il dit espérer avoir les meilleures relations possibles avec cette structure de l'Église catholique présente dans 47 diocèses à travers les pays. Pour le nouveau coordonnateur humanitaire en RDC et numéro 2 de la MONUSCO, Caritas Congo Asbel reste un partenaire clé, non seulement pour l'action humanitaire, mais aussi pour toutes les actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Pour sa part, le secrétaire exécutif de Caritas Congo Asbel a réaffirmé la détermination de son organisation d'œuvrer au bénéfice des nécessiteux. Boniface Nakwagelewi.
Caritas Congo a contribué dans le plan d'action humanitaire et Caritas Congo va aussi contribuer dans l'exécution, dans la recherche de solutions.
Nous sommes déjà engagés et à travers nos prévisions budgétaires pour l'année 2022, nous avons planifié de l'aide humanitaire mais aussi un travail de développement, a-t-il ajouté.
Autre nouvelle, la société civile de Kasumbalé s'alerte sur la recrudescence de la criminalité dans cette ville frontalière avec la Zambie. Des bandits armés sèment la terreur à travers les différents quartiers où ils emportent les biens d'autrui et s'en prennent aux paisibles citoyens. La police a mis la main sur certains présumés bandits qui sont déjà à la disposition de la justice. Jean Gandou, quand est-ce que cette situation a commencé?
D'après la société civile locale, c'est depuis le mois de janvier dernier que les habitants de Kasumbalesa sont secoués par la criminalité. Les bandits défoncent les portes, cassent des vitres et braquent les armes sur les occupants à qui ils exigent de l'argent et autres biens de grande valeur. Il y en a aussi qui entrent par effraction dans les maisons, volent, violent et par moments tuent. Depuis quelques jours, la police a mis la main sur certains présumés bandits. Les autres, notamment ceux détenant les armes, sont en cavale. Parmi les présumés bandits arrêtés et présentés par la police, il y a des récidivistes. D'où l'inquiétude du président de la société civile de Kasumbalesa, Clément Mitonga.
Kasumbalesa vient de passer un moment très dur. Il y a eu des cas de viols, de vols. Les services de sécurité ils sont en train de pourchasser tous ces éléments suspects et les criminels que nous avons connus à Kasumbalesa. Quand ces gens sont amenés au niveau de la justice, ils sont toujours relâchés et ils rentrent toujours dans leur mouvement habituel de tuer, de violer et de faire n'importe quoi. Nous avons même certains cas de chefs de bloc et cellules qui sont dans l'insécurité actuellement parce qu'ils avaient dénoncé ces gens. Ils sont relâchés.
Notons que les résidences les plus visées sont celles de quartier Golf et Wabora et sous-station. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, troisième livraison de notre série de reportages sur l'université de Kinshasa et le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce matin, nous parlons de l'évolution des travaux de réhabilitation des hommes des étudiants. Alors que le plateau des étudiants et le home 10 ainsi que tous les trois hommes des filles ont déjà revêtu leur plus belle robe, Michel Kifindangoy, les hommes 20 et 30 demeurent dans un état désastreux et nécessitent la réhabilitation avant tout hébergement.
C'est depuis 2020, sur décision du président de la République, que les étudiants ont été délogés des homes pour réhabilitation. Deux ans plus tard, les étudiants ne sont toujours pas logés dans les homes. Et c'est depuis 2021 que les 8 homes du plateau des étudiants ont été complètement rénovés. Le home Vatican, 80 et 150 pour les filles, ont aussi été complètement réhabilités. Les travaux de réfection du home 10 ont aussi beaucoup avancé et sont presque à la fin. La beauté que donnent désormais ces homes suscite un sentiment de satisfaction chez les étudiants qui se montrent de plus en plus impatient d'y habiter. Les recteurs de l'université de Kinshasa encouragent donc le gouvernement à poursuivre la réhabilitation des hommes 20 et 30 avant de procéder au logement des étudiants. Cependant, certains étudiants interrogés s'indignent de l'arrêt des travaux qui, pour eux, ressemble à une stratégie de les maintenir à la maison en lieu et place des hommes, de peur qu'ils se mobilisent pour marcher contre la grève prolongée des professeurs.
Actualité internationale.
Le président tunisien a annoncé mercredi 30 mars la dissolution du Parlement, 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger le plein pouvoir en juillet 2021. Kais Saied a fait cette annonce lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidée quelques heures après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées depuis par le président.
L'invité.
Le ministre des Hydrocarbures a décidé de fermer tous les dépôts pétroliers pirates à Kinshasa. Une décision qui rentre dans les cadres d'assainissement de routine, nous dit Tony Tiermani, son conseiller technique. C'est lui, notre invité dans cette édition. Il s'entretient avec J.R. Lungembo. Suivez.
Monsieur Tony Tiermani, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Cette décision concerne quelle catégorie des dépôts?
Cette décision concerne les deux catégories de dépôts. Il y a les dépôts clandestins, ça veut dire des dépôts qui ne sont couverts par aucun titre, ni un permis, ni une autorisation de transport stockage. Et la deuxième catégorie, c'est des dépôts hors normes. Ça veut dire pas de respect des normes d'hygiène, de sécurité, de santé et technique. Voilà.
Alors, la décision intervient quelques jours après l'incendie déclaré au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Donc, il aurait fallu qu'il y ait mort d'homme lors de cet incident pour que les ministères des hydrocarbures se réveillent de son sommeil afin d'assainir, au fait, les secteurs.
Non, nous n'avons pas attendu que l'incendie s'efface. Personne ne peut prévoir, personne ne peut planifier qu'il y ait un incendie comme ça. Mais vous vous souvenez déjà, le ministre avait déjà pris une série de mesures d'assainir les secteurs avant le pétrolier. Mais j'avoue que l'incendie est peut-être venu accélérer ce processus d'assainissement du secteur aval pétrolier.
Est-ce une décision structurelle ou conjoncturelle?
C'est les deux, hein, c'est les deux, parce que là nous sommes en train d'attaquer d'abord les problèmes conjoncturels, mais c'est structurel dans la mesure où l'assainissement, le processus de l'assainissement de l'aval pétrolier s'est structuré, ça tire sa source de la loi. Nous devons appliquer toutes les mesures édictées par la loi et ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire national.
Et cette opération prend-elle en compte aussi cette problématique des stations installées aux côtés des maisons d'habitation?
Exactement. Nous en avons même fermé un le week-end dernier à Calamon. Oui, il s'agit d'un pot qui s'appelle l'IDAME. C'est vérifiable. Ce dépôt c'est un dépôt clandestin. Aucun document, aucun titre. Mais il fonctionnait normalement. Nous l'avons fermé.
Alors, les dépôts qui ont des problèmes avec des produits non marqués ne se retrouvent pas seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Et cette opération va s'étendre à travers le pays?
Oui, ça va s'étendre. Il faut déjà faire le distinguo. Le programme de marquage, c'est un programme spécifique. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire consommer sur le marché les produits pétroliers qui payent toutes les taxes à l'État, la fiscalité, la parafiscalité à l'État. Alors nous l'identifions à partir de cette molécule invisible qu'on injecte dans les produits et qu'on injecte en amont avant la sortie des produits d'un entrepôt comme CEP, par exemple, ou les RESCOM, et on retrouve cette molécule sur le point de vente des produits, de consommation des produits. Et il y a deux types de molécules, il faut déjà que je les dise. Il y a des molécules qu'on injecte pour marquer les produits qui vont sur les lieux de commercialisation de la vente, mais il y a des molécules qu'on met pour des produits exonérés. Par exemple, si la MONUSCO a ses produits pour ses propres camions, qui sortent les produits qui partent des CEP, par exemple, on va mettre un marqueur qui indique que c'est un produit exonéré, qui ne peut pas se retrouver sur les lieux de vente. Alors, lorsque nos équipes arrivent, la brigade arrive, par exemple, dans une station ou dans un point de vente de consommation, on essaie de faire ce test-là. Si on trouve le produit exonéré qui se retrouve là, c'est une infraction. Donc, ça, c'est le programme qui est
donc, vous affirmez qu'il y a une brigade dans les secteurs pétroliers, dans les secteurs des hydrocarbures, qui travaille au quotidien.
Il y a une brigade qui travaille au quotidien. On le retrouve souvent
à
Kassangoulou. Oui, il est là. La brigade, elle est là. Non. Il faut distinguer. Là, je voudrais qu'on distingue les deux programmes. Le programme de marquage, je veux dire, c'était un programme, nous étions en phase de sensibilisation. C'est terminé la phase de sensibilisation. Nous avons les barèmes de sanctions. Nous sommes maintenant passés en phase répressive. C'est comme ça que vous voyez, nous commençons à arrêter avec amende là-dessus. Mais alors, à ce qui concerne l'autre aspect, ça veut dire le respect des normes. Il y a une brigade, la task force vient d'être, missifiée. Mais c'était d'abord précédé des mesures que le ministre avait déjà communiquées aux opérateurs pour dire, attention, il y a ces mesures qu'il faut respecter, mais vous savez, toute mesure qui est prise, ça doit être suivie justement d'une telle brigade qui puisse assurer le suivi de cette mesure-là, et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Mais une fois encore, personne n'a prévu l'incendie qui est arrivé, et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres incendies. C'est ça notre objectif pour le moment. Et les opérateurs doivent comprendre que nous sommes là, non pas pour les tracasser, mais pour que tout le monde soit en paix. Nous devons faire en sorte que les activités dans les secteurs de Kouabir garantissent la sécurité des personnes et des biens, la sécurité publique.
Qu'est-ce qui garantit que cette équipe ne sera pas corrompue?
Ben, encore une fois, ce qui va garantir, c'est que l'instruction que le ministre a donnée, le ministre est très ferme. La task, Hydro Task Force est mise sur pied, non pas pour pouvoir marchander, transiger sur les dispositions de la loi, c'est pour faire appliquer les dispositions de la loi.
Monsieur Tony Tchermani, conseiller technique aval du ministre des Hydrocarbures, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée et supervisée par Pélé Kipelamondo. Merci de nous avoir suivis.